à l'ombre de Concertina, l'émission en direct et en public d'ici l'ombre, depuis la Halle à Dieulefit.
En 1987, je venais d'être transféré de la maison d'arrêt d'Angoulême et je venais juste d'arriver à la maison d'arrêt de Poitiers. J'ai eu la chance d'être placé en cellule avec un ami, Jean-François, un ami de longue date. Et de notre fenêtre, nous arrivions à voir au-dessus du mur, du deuxième étage, au-dessus du mur, un lotissement un petit peu qui était à 150 mètres à peu près. Je n'en pouvais plus de la prison. Vraiment, ce milieu que je trouvais complètement exécrable. Je n'en supportais plus du tout l'enfermement. Et puis, nous avons décidé d'essayer de partir, de nous évader. Nous avions été incarcérés tous les deux quelques années auparavant et nous avions des ceintures dans lesquelles un ami cordonnier avait cousu des fils d'ange. Des fils d'ange, ce sont des petites lames souples sur lesquelles sont placées des petites dents qui ont été solidifiées avec du mercure et qui sont diamantées. Ces fils d'ange, ces sortes de scies souples, permettent de couper pratiquement tous les métaux avec une grande facilité. On avait réussi à les faire passer sous les portiques parce que les ceintures étaient agrémentées de petites boucles en métal. Et puis, il nous manquait la corde. Donc, il a fallu en fabriquer une. Il n'y avait pas de corde, hélas, en cantine. Donc, nous avons sollicité des co-détenus pour acheter des espadrilles qui ont des semelles de corde. Et pendant des semaines, les co-détenus ont acheté ces espadrilles et nous les ont fait passer. Et pendant des semaines, nous avons tressé des cordes et 5 mètres par 5 mètres, nous les avons cachées au fur et à mesure dans des seaux sur lesquels nous mettions nos vêtements, notre linge de corps, sale, de manière à ce que les surveillants évitent d'aller fouiller dessous. Et une fois que les cordes ont été pratiquement réalisées, pratiquement prêtes à être assemblées, nous avions convenu avec des amis qui avaient loué un pavillon en face de notre cellule et qui donc pouvait apercevoir la fenêtre de cette cellule du pavillon qu'ils avaient loué, nous avions convenu d'un signal lumineux le jour où on aurait décidé de partir. Et nous avons attendu un peu. On est arrivé à la période de Noël. Et nous avons constaté à la période de Noël, le soir du réveillon, que les surveillants avaient complètement ralenti les rondes et puis on ne les voyait plus. Ils n'en avaient pas non plus dans les miradors. Donc nous avons décidé, cette fois-ci, d'attendre le réveillon du Nouvel An et de voir s'il en était de même pour voir si la tentative avait une possibilité d'aboutir. Le soir du Nouvel An arrivé, nous avons prévenu nos amis par le signal lumineux convenu. Ils ont déplacé une voiture, l'ont placée juste à côté du mur d'enceinte. Nous avons scié le barreau et nous avons attaché la corde avec un nœud sans retour qui nous permettait de la récupérer lorsque nous serions descendus du mur de la détention. Et nous sommes descendus. Nous sommes arrivés en bas, avons récupéré la corde et avons accroché un crochet, une sorte de crochet que nous avions fabriqué à partir des pieds des tabourets qui sont dans les cellules que nous avions désolidarisés du socle. Nous avons lancé le crochet par-dessus le grillage et par-dessus les barbelés. Nous avons grimpé, passé ces barbelés à l'aide de couvertures pour éviter de trop nous couper, traversé une première cour de promenade, avons à nouveau lancé au-dessus du second grillage la même corde avec le même crochet et puis sommes redescendus de l'autre côté. Et nous étions alors dans un mur de ronde à 3 mètres du mur et à 3 mètres de l'extérieur. Et nous avons envoyé la corde que nos amis ont récupérée qu'ils ont accroché à l'accroche caravane de la voiture et ils nous ont hissés sur le mur, tour à tour, où nous avons terminé de déchirer nos pantalons, nos cuisses, nos jambes et nos bras, parce que sur les murs des détentions, souvent il y a des tessons de bouteilles sur les fêtes. Nous sommes suspendus au mur et nous sommes laissés tomber. Ils nous ont récupérés tant bien que mal et nous étions complètement éreintés et complètement sanguinolents. Ils nous ont vite jetés dans le coffre et nous sommes partis. Ça a vraiment été une solidarité extraordinaire entre détenus dans un milieu aussi sécuritaire. Mais ma foi, je pense que ça restera probablement le meilleur réveillon de la Saint-Sylvestre de toute ma vie. Eric Jaya, 51 ans, 32 ans de condamnation, 19 ans d'incarcération.
Vous êtes sur Ici l'Ombre, la radio de Concertina, les rencontres estivales autour des enfermements. C'est la deuxième édition cette année, dont le thème est l'évasion. Et vous venez justement d'entendre un des témoignages extraits du documentaire de Stéphane Mercurio, Après l'Ombre, qui a été projeté cet après-midi. Sur un spectacle monté par le metteur en scène Didier Ruiz, Une longue peine. Justement, ce témoignage qui a été choisi parmi tant d'autres issus de ce spectacle, c'est sur l'évasion. Et il dit déjà beaucoup de choses, mais tout le reste va être dit tout au long de cette émission avec nos différents invités.
Alors effectivement, on a le plaisir d'accueillir autour de ce plateau Stéphane Mercurio, réalisatrice du film documentaire. Donc bonjour Stéphane.
Bonjour.
Louis Perregaux est ancien détenu de longue peine qui a travaillé avec Didier Ruiz et peut-être Éric Jaya qu'on vient d'entendre en introduction. Là, on l'accueillera quand il arrivera. Bonjour Louis.
Bonjour.
Et Annette Fox. Alors j'ai dit une grosse bêtise, Annette.
Non, pas si grosse, c'est pas bien grave. Et c'est juste qu'il y a un tréma sur le, du coup, ça fait Fouex.
Fouex.
Et bonjour Sylvie.
Autant pour moi, compagne de Louis Perregaux, qui fait aussi partie de l'aventure théâtrale. Et bonjour Annette. Et tous trois, protagonistes aussi du film documentaire.
Et pour vous animer cette rencontre, nous sommes avec Sylvie de Radio Bourg-les-Valence, Radio BLV.
Bonjour. Et avec Frédéric de Radio d'ici.
Alors Stéphane, je m'adresse à vous en premier. Je voudrais savoir un peu comment est né ce projet de réaliser ce documentaire. Et un projet pour lequel il fallait se faire accepter à la fois par le metteur en scène, justement, Didier Ruiz, qui montait le spectacle Une longue peine avec plusieurs détenus, et puis se faire accepter aussi par, justement, les interprètes. Alors, je ne sais pas si le mot interprète, c'est celui qu'il faut choisir, hein, mais je crois que comédien, ce n'est pas non plus le bon terme, puisque ce ne sont pas des comédiens, justement. Mmh. Ce sont des gens qui vont raconter leur vie ou une partie de leur vie. Donc, d'où est née cette idée, vous qui êtes documentariste?
Moi, je travaillais depuis des années. Enfin, j'ai beaucoup travaillé sur la prison, donc j'ai fait plusieurs films, dont un sur les familles. Ensuite, je suis rentrée à l'intérieur de la prison avec le contrôle général des lieux de privation de liberté. Et l'idée que j'avais en tête avant de rencontrer Didier et de savoir que j'allais m'embarquer avec ce film, c'était de faire un film sur l'après. Et je cherchais des témoignages de longue peine. Mais j'avais écrit un film très différent de celui-là, mais qui au fond disait la même chose que ce que j'ai pu dire avec Didier. Et j'ai rencontré Didier Ruiz, qui était au tout début de cette histoire, parce qu'il avait encore rencontré personne, je crois, à ce moment-là. C'est Bernard Bols qui nous avait mis en contact. Et Didier, il m'a tout de suite dit, il m'a tout de suite fait confiance. En fait, il m'a tout de suite ouvert son plateau en me disant, écoute, tu viens. Et puis, et j'ai donc été avec lui sur les premiers entretiens qu'il fait pour recruter, enfin pour proposer à des gens de participer au spectacle. Et là, j'ai eu envie de filmer cette étape. Et en filmant cette étape, j'ai décidé de poursuivre l'aventure et de faire un film. Et j'ai lâché ce que je faisais pour continuer avec lui, parce que j'étais happée par à la fois le travail de Didier et à la fois les récits, les personnalités. Enfin voilà, c'est un film, c'est une histoire de rencontre. Hein, c'est un désir de film et... Voilà. Le désir d'être filmé, quelque chose comme ça.
Vous réalisez finalement un documentaire sur un spectacle en train de se monter. Donc vous êtes en observatrice, mais en même temps, vous ne devez pas vous montrer. Vous devez être ignoré à la fois du spectateur qui va regarder le documentaire, mais aussi justement des interprètes. Vous devez montrer petit à petit tout ce qui se passe sur le plateau, mais sans que jamais on puisse vous voir.
Bah, en fait, La difficulté de ce travail, c'était... Donc, il y avait un travail de création qui était en train de se faire. Et moi, je ne pouvais pas être à la même place que Didier. Je ne pouvais pas... Didier Ruiz, donc le metteur en scène... il ne s'agissait pas de faire du théâtre filmé, ça n'avait pas d'intérêt. Donc, il fallait que je trouve une place un peu à côté, qui était à la fois dans cette histoire et un peu décalée, qui me permettait de filmer... pour moi, c'est un film qui a trois peut-être niveaux. C'est à la fois un film sur le travail théâtral, voilà ce que c'est de travailler une pièce, de comment s'élaborent les choses autour de ce théâtre documentaire que fait Didier Ruiz. C'est évidemment un film qui vient questionner la prison, l'enfermement, etc. Et puis c'est un film aussi sur la confiance, sur ce que permet la confiance et le collectif. Qui voilà, où on voit du coup que ça autorise à une parole d'émerger, que ça permet voilà quelque chose d'un peu c'était un moment un peu suspendu, un peu particulier qui a été cette semaine pour tous les gens qui étaient là, hein, nous l'équipe, je pense Louis, Annette, enfin les autres, Didier aussi, enfin voilà, il y avait quelque chose d'assez fort.
Et vous avez été reçu par l'équipe, justement
En fait, très facilement, une équipe de théâtre, il y avait Didier Ruiz, mais il y a pas mal de gens autour, donc il y a une photographe, enfin, il y a des gens qu'on ne voit pas, voilà, qui sont là, qui font le son.
Vous n'êtes pas seule, il y a quand même une présence assez forte, justement.
Voilà. Et nous, on était trois, donc on faisait partie de ce groupe, et puis je crois que dans un premier temps, l'enjeu du film n'était pas très fort pour eux. C'est-à-dire que l'enjeu était, et pour Didier, et pour les acteurs de la pièce, de réussir à dire, à transmettre quelque chose et d'être sur scène très peu de temps après, en fait, puisque c'était 15 jours plus tard. Donc, voilà, je pense qu'il y a c'est un vrai défi, c'est une angoisse. Donc, le film n'était pas l'enjeu majeur du moment.
Ça fait quand même un regard extérieur, en plus, posé sur eux qui sont en train de travailler.
Oui, mais ils m'oubliaient complètement. Et bon, alors je raconte, mais parce que ça raconte effectivement la situation, enfin, l'espèce d'état d'esprit. C'est que le premier jour, moi, on s'est retrouvés avec l'équipe. Donc, l'équipe, on était trois, un chef opérateur, un ingénieur du son et moi. Entre Didier Ruiz, Mina, son assistante, et ceux qui étaient sur scène, donc ça variait au fil de la matinée, et on était presque dans leur champ de vision, en tout cas très présents. Et quand j'ai été demandé si on les avait pas dérangés, parce que j'avais peur, Didier m'a dit non, pourquoi, vous étiez où? Et je crois qu'eux ont eu le même sentiment. C'est-à-dire que tout le monde était tellement concentré, Didier, sur son travail, eux sur le fait, c'était le premier jour, en tout cas, de cette semaine-là, où il fallait réussir à dire.
Invisible.
Ça a rendu invisible parce que l'enjeu était ailleurs et que du coup, quand on filme des gens très concentrés sur quelque chose, en fait, ils nous oublient très vite. Hein. Même si tout le monde sait, en même temps, tout le temps, qu'il y a une caméra qui est là et qu'on en a conscience, mais voilà.
Et vous êtes resté combien de temps à peu près avec eux sur l'ensemble de leur travail?
Pas très longtemps, en fait, parce qu'on a fait donc les premiers entretiens, donc ça s'est passé sur 2-3 jours. Ensuite, il y a eu 7 semaines de résidence.
Celle-là.
Pas 7. Et ensuite, on a refilmé une ou deux représentations. Donc, ça a été assez court. D'accord. Mais extrêmement et dense. Ouais.
Et justement, oui, Annette et Louis, comment vous avez
ressenti ça? Ah bah oui, j'allais dire, c'est marrant ce que tu dis. Parce que dès qu'il m'aurait posé la question, j'aurais dit, vous étiez là tout le temps.
J'étais un peu là à Lyon aussi, mais 2 jours à Lyon.
Ah ouais.
Mais parce que la notion d'espace-temps se...
Oui, puis on était tellement bien avec eux que même quand elle n'était pas là, elle était là, quoi. Tu faisais partie de... Elle fait partie de l'équipe, Stéphane. Et...
J'ai cru que tu allais dire qu'elle faisait partie des meubles.
Eh bien, justement,
il y avait pas
non.
Beaucoup de meubles.
Mais pas du tout, parce que tu la vois telle qu'elle est avec sa bonne bouille, là. C'est dommage, vous toutes et vous tous qui nous écoutez, vous ne la voyez pas, mais elle a une trop bonne bouille, Stéphane, et on est trop bien avec elle. Et donc, elle ne dérangeait pas, on pourrait dire, comme un meuble ne dérange pas. Mais c'était complètement autre chose. Il y avait de l'empathie, il y avait un regard plein de. Je vais peut-être pas dire l'amour s'est gonflé parce que mais il y avait quelque chose de tellement fort qui émanait de Stéphane que
mais parce
voilà
que...
elle était là mais c'était bien quoi.
Quand vous avez commencé à travailler tous ensemble, Louis, Annette, Eric, René, André, pardon, André,
Dédé,
pardon. Voilà. Vous vous connaissiez pas forcément tous les uns les autres. Il a fallu faire monter un peu la confiance, la cohésion du groupe. Et par là-dessus, vient se greffer un autre regard. Donc, c'est ça aussi que je veux savoir comment vous l'avez ressenti. Mais Stéphane l'a expliqué très bien. Hein, mais voilà. Je ne sais pas si Louis veut rajouter quelque chose. Un autre regard encore.
Oui. Non, je veux revenir un tout petit peu sur ce qu'a dit Stéphane. C'est vrai, j'aime bien le mot concentré. On était tellement concentrés sur les enjeux que finalement, ce qui était autour, on était dans une discussion comme ça, mais vraiment frontale avec Didier. Et on était sur un jeu d'échecs, là. Didier, qui voulait monter sa pièce, qui avait eu pas mal de difficultés pour trouver des gens aussi en même temps. Et puis nous qui, enfin en tout cas moi...
Trouver des gens, ça veut dire trouver des personnes qui interprètent sa pièce.
Voilà, qui soient dans les critères qu'ils cherchaient, quoi. C'est-à-dire longue peine, déjà. Longue peine, ils n'ont pas toujours envie de parler de la prison. Par contre... pour ma part, j'étais dans une hésitation à ce moment-là. Des enjeux, il y avait à la fois, de prime abord, j'avais pas envie de faire du théâtre, j'avais envie de plein de choses, mais le théâtre, j'avais jamais imaginé ça possible. Le fait qu'Annette avait dit oui, j'étais un petit peu obligé, je me sentais un peu obligé de suivre. Quand même, de par la perte de vue, on ne sait jamais.
Entraîné par la dynamique.
Et puis, il y avait cet enjeu, oui, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et j'avais besoin, pas d'assurance, on ne pouvait pas me les donner, Didier, parce que effectivement, c'était sur la confiance que ça se basait. Donc j'avais envie de le découvrir, donc on s'est un petit peu, cette première journée, affronté. Et derrière, il y avait quand même le côté, pour moi, militant, en me disant, le théâtre, c'est une porte sur un monde que je ne connais pas, donc c'est intéressant. C'est un nouveau terrain à explorer, quoi.
Eh bien, on va pas tarder à l'explorer.
Moi, je vais revenir sur toi, Annette, puisque tu as fait partie de cette aventure théâtrale. Et comme on le disait, c'est en fait Didier Ruiz t'a contacté. C'est toi qui l'as contacté en premier, visiblement.
Alors, la genèse, c'est Bernard Bolz. Et particulièrement aussi dans notre vie, à Louis et moi, c'est un pivot dans notre vie. Il fait plus que partie de la famille Bernard Bolz. Il est dans tous nos carrefours. Et donc, il nous avait dit, donc c'est un pote, et il nous avait dit qu'il avait rencontré quelqu'un qui fait du théâtre, un metteur en scène, avec une compagnie qui avait une certaine renommée sur Paris et qui avait en projet de faire du théâtre avec des témoignages de gens qui avaient vécu la prison. Donc il se demandait si ça m'intéressait, et moi j'ai dit oui tout de suite parce que d'avoir la parole, très bien, mais puis je suis pas branchée théâtre, et voilà, j'ai dit oui parce que Bernard me disait que c'était bien, donc si Bernard me dit que c'est bien, j'y vais.
T'étais en confiance?
Ah, complètement. Et puis ça m'est sorti de la tête, il s'est passé du temps et tout. Puis un jour, j'ai effectivement reçu un mail de Didier Ruiz qui l'a expliqué avec sérieux le projet. tout ce qu'il y avait. Et je me suis dit, putain, on me donne la parole à moi. Parce qu'il faut dire que quand tu es, bon, en l'occurrence, me concernant, c'est femme de prisonnier. Mais je pense que la personne, qu'elle soit femme, mère ou enfant de prisonnier ou père, évidemment.
L'entourage proche.
L'entourage proche. Tu n'as pas forcément une reconnaissance. Forcément, tout est fait pour la personne qui est incarcérée. Et ce qui est compréhensible, parce que voilà. Et du coup, nous qui accompagnons, ben, on est moins dans la lumière. Enfin, on va pas dire que le prisonnier soit dans la lumière. Je l'exprime
non,
pas très bien.
Non, mais en tous les cas, on n'entend pas votre parole.
Ouais, tu vois ce que je veux dire. On se vous voit, pardon.
Bon, on peut se tutoyer avec ouais, non, votre ouais. parole en général.
Ouais, disais. Voilà. Donc, voilà, tu vois ce que je veux dire. On est, donc, du coup, j'ai réalisé au moment où j'ai reçu, je pense, ce mail de Didier Ruiz que, pétard, je peux parler, ben, je fonce là. Parce que t'en emmagasines des choses, quoi. Donc, c'est Didier qui a fait le premier la démarche. Et moi, que Louis vienne, qu'il vienne pas, moi, j'y allais. Hein.
De toute façon, t'y allais. Ouais. Parce que c'est vrai que, juste pour dire deux mots et sur ce que tu viens de dire, c'est vrai que quand toi, tu as vécu les années d'incarcération comme toutes les l'entourage de l'extérieur, mais est-ce qu'on peut pas parler finalement d'une forme d'isolement aussi de cet entourage?
Une façon d'être enfermé dehors, pardon.
Oui. Oui, on pourrait dire ça, mais je pense que je me suis pas vraiment sentie là-dedans, parce que j'ai été extrêmement... Je suis une bourgeoise de la détention à l'extérieur, parce que j'étais énormément accompagnée d'amis. J'étais très, très entourée.
Ce qui n'est pas forcément le cas.
Ah ben, sûrement pas. J'avais cette grande chance-là au départ, d'être très, très entourée, donc ça ne peut pas me... J'ai eu du
tu
bol.
Te reconnais pas là-dedans, voilà.
Ouais, j'ai forcément eu une grande solitude parce que quand on est dans la merde, tu l'as connu, si t'as, à partir du moment où on est dans la merde, même si on est très très bien entouré, on est quand on même est seul. Toujours à un moment, voilà. Donc j'avais... Mais quand même, on ne peut pas dire que...
Mais cette parole, c'est important d'en parler, puisque c'est vraiment le cœur aussi de la démarche théâtrale de Didier. C'était votre parole qui était intéressante, et d'autant plus que vous êtes face publique par rapport au dispositif scénique, et que vous... Alors, on va en parler après, mais on va passer du témoignage au récit théâtral. Est-ce que toi, justement, dans ce que tu as donné, dans ce qui était appelé des vignettes, alors je ne sais pas, c'est Eric qui parlait de cette terminologie, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez tous repris.
Oui, c'est Didier Ruiz qui nous a donné le terme de vignette.
Et dans ces vignettes, est-ce qu'il y a des choses que tu as dites, que tu as données, que Louis ne savait pas, par exemple?
Ah, je ne sais pas, il faut demander à Louis.
Est-ce que tu as appris des choses ou est-ce que tu as entendu en tous les cas?
Non, je pense pas avoir eu de surprise. Non, des détails que j'ignorais sur des situations, mais sur le fond...
La parole avait été déjà quand même assez libre entre vous.
On s'écrivait tous les jours, alors
il y avait bien que la parole qui était libre.
Oui, le courrier. Il y avait le courrier.
Enfin, le courrier qui est libre jusqu'à un certain point. Parce que
oui, la censure est exercée. Mais le courrier nous a permis d'être en lutte quotidienne et de se dire, ils nous ont séparés, mais on est ensemble. Mais pas complètement. Parce qu'on peut s'écrire tous les jours. Et du coup, je racontais tout à Louis, ma journée, avec le bon, le pas bon. Surtout le pas bon. Puisqu'il y avait surtout du pas bon. Et lui, de son côté, me racontait tout aussi. Et c'était comme un couple qui se retrouve le soir sur l'oreiller et qui se dit « Alors, t'as fait quoi, toi, aujourd'hui ?» Et tout ça. On a un peu vécu ça. Bon, d'une autre façon, c'était bien pas si rose, mais on a vécu ça. Et là-dessus, j'ai l'impression qu'on ne s'est pas laissé...
Le signe pas radiophonique que fait Annette est très parlant.
Vous n'avez pas
je
l'image,
vous laisse
mais
deviner de quoi il s'agit.
Et en même temps, c'est très complexe et je suis très accrochée à cette problématique-là aujourd'hui, j'en étais pas consciente, je pense, au moment de la prison, mais aujourd'hui, c'est un petit peu ma lutte actuelle, de la complexité des choses, la complexitude, je sais pas comment il faut dire ça.
Ouais.
Parce que ce courrier, c'est l'administration pénitentiaire qui, dans sa grande gentillesse, ou je sais pas comment, quel mot il faut employer, nous permet de nous écrire. Mmh. Oh, comme c'est gentil. Ils nous séparent, mais quand même, ils nous permettent de nous écrire. Et donc, j'ai accepté cette aumône-là. Et ça, j'aurais aimé pouvoir avoir l'extrémisme de dire... je n'irai pas au parloir, je n'écrirai pas à Louis, ils nous ont séparés, je n'accepterai rien d'eux. J'aurais aimé pouvoir vivre ça, mais je pense que c'était total, je le pense aujourd'hui. D'ailleurs, je n'ai pas pensé à le faire au moment où j'étais dans la situation. Je pense que c'est la mort quand même qui m'aurait tendu fortement la main. Déjà, elle me l'a tendue en acceptant les parloirs et le courrier. Donc, je pense que ce n'est pas très réaliste, mais... Je suis très ennuyée de ces compromissions-là avec l'administration pénitentiaire quand même, aujourd'hui.
Alors, je vais revenir au spectacle. Et comme tu disais, Stéphane, il y avait trois pistes principales, en tous les cas. Et notamment un vrai travail théâtral aussi qui a été fait avec vous et que Didier vous a fait faire. Et notamment dans le film, à un moment, on voit Didier qui te dit, Annette, lève la tête quand on voit le bleu. Les mots prennent une force décuplée.
Et je lui dis, oui, mais quel bleu, je ne comprenais pas qu'il avait parlé de mes yeux à ce moment-là. Je suis un peu la nunuche, mais bon, c'est comme ça.
Non, mais c'est très fort. Alors, non, ce n'est pas nunuche du tout, c'est super fort. Quand on le voit, en tous les cas, et qu'on assiste à ça, c'est très, très fort. Et est-ce que tu as eu le sentiment, justement, toi et puis Louis aussi, de faire un vrai travail, finalement, de rentrer quand même dans un travail d'acteur, finalement. Même si c'est, s'il y a cette distance, il y a un vrai travail théâtral qui a été fait.
C'est pareil, avec le recul, effectivement. J'ai travaillé avec le grand Didier Ruiz. J'ai un respect pour Didier, vraiment une reconnaissance et je ne veux pas dire admiration, mais vraiment, c'est un homme absolument merveilleux et de par son... Je dis ça parce qu'il ne nous écoute pas. Hein. Et de par son humanité et de par son professionnalisme, c'est quelqu'un mais d'extraordinaire, Didier Ruiz. Et je pense qu'effectivement, on a fait un travail d'acteur et d'actrice. Mais sur le moment, je me sens pas dans ce rôle, moi. Mais si on regarde le film de Stéphane, comment il nous a fait travailler, ouais, et que Stéphane a fort bien rendu...
C'est énorme.
C'est énorme. Voilà,
c'est énorme le travail que vous avez fait.
Et je voudrais justement bien savoir, ou en tout cas que vous essayez de nous expliquer, comment vous arrivez à mettre en valeur, à travers un documentaire, le travail théâtral qui est fait, la confiance qui monte entre les personnes, la confiance qui monte entre les personnes et le metteur en scène. Et puis le travail qui est effectivement à travers juste un documentaire, à travers des images, comment...
D'abord, il y a... Je travaille avec le réel, donc il y a ce que nous donne le réel, et le réel était extrêmement puissant là, parce que voilà, les écouter, être à ce moment-là du travail, c'est-à-dire le moment où la parole est clos, le moment où parfois les choses se disent... En tout cas, publiquement, pour la première fois, etc. C'est des moments extrêmement forts. Et puis, il y avait... Moi, je faisais un film, donc il ne s'agissait pas juste de restituer les moments de ce qui, la pièce, on va dire. Et donc, il a fallu poser les enjeux. Donc là, c'est vrai que c'est Louis, au début du film, qui pose les enjeux de la confiance, parce qu'il y a un moment comme ça où, avec Didier, il dit « Non, mais qu'est-ce que tu vas faire ? Est-ce que tu vas pas aller faire un truc un peu voyeur ?» Enfin, et avec une peur légitime. Et donc, ça pose les enjeux aussi de... Pour que ça marche, il faut que la confiance se met en place. Donc ça, c'était quelque chose que je... Voilà. Et puis, il y avait ce qui reste, ce qui était très touchant. Il y avait les moments hors représentation, enfin, hors travail. Et comment, finalement, tous ces moments-là racontent la prison aussi. Et voilà, que ce soit... Alain qui fait des allers-retours comme s'il était encore dans une cour de prison. Donc je l'avais vu faire ça, donc voilà, peut-être plusieurs jours de suite. Que ce soit Eric qui, à un moment de danse, dit qu'il supporte plus le toucher, ou que ce soit Dédé qui avait son anniversaire et à qui on était donc voilà une quinzaine autour de lui avec une très très belle chanson d'Annette. Par ailleurs, c'était voilà, il y avait un gâteau avec des bougies, une bouteille de champagne. Enfin, voilà, c'était quelque chose de qui dit c'est mon plus bel anniversaire. Mmh. Voilà, et ça aussi, ça raconte forcément. Enfin, comme ça, en quelques mots, on raconte, on sent une histoire de vie derrière. Donc, il y avait toutes ces petites choses là qui voilà. Et puis, comment essayer d'attraper dans les corps, dans les regards, dans les échanges, comment petit à petit les choses se partagent, les silences ou au contraire les regards, enfin toutes ces petites choses là qui fabriquent parce que un film c'est pas des mots seulement, c'est effectivement c'est des temps de respiration, c'est les temps de voilà, mais c'était sincèrement, c'était un film pas très difficile à faire tellement voilà, il y avait les choses là quoi. Il fallait juste voilà, il fallait réfléchir à où on se mettait, comment encadrer, comment voilà, qu'est-ce qu'on donnait comme respiration. Enfin voilà, il fallait fabriquer un film parce que c'est du cinéma et c'est mais
et justement on entend
si je peux revenir, vas-y, bien sûr. Juste sur la question d'avant, j'ai envie de dire que On n'a jamais perdu l'idée qu'on était dans une pièce de théâtre documentaire. C'est-à-dire qu'on ne s'est jamais pris pour des acteurs parce qu'on était dans une situation, non pas de jouer, de jeu, mais de restitution. Et enfin, la différence que je vois, moi, c'est que le comédien, il faut qu'il s'imprègne d'un climat, d'une ambiance et de regarder... C'est un monde qu'il ne connaît pas. Nous, il suffisait simplement de piocher, d'entrer en soi et faire attention de ne pas se laisser déborder par l'émotion.
C'est ça, ce qui n'était voilà. Pas facile.
C'est dans ce sens-là où il a toujours fallu qu'on garde bien le contrôle. On se lâchait peut-être un tout petit peu à la fin quand il s'agissait d'aller saluer parce qu'il fallait attraper Dédé qui voulait y retourner même quand les gens avaient arrêté d'applaudir.
Non, mais c'est vrai, de trouver cette juste distance, c'est en ça que je parle vraiment du travail de théâtre pur, c'est entre le témoignage et donc l'émotion, etc., et la juste distance pour pouvoir restituer. On sent en tous les cas, au travers du documentaire, tout ce travail et la façon dont ça avance. Ça. C'est vrai que ce film, on ressent la gravité, la nécessaire parole, mais aussi une joie et une humanité profonde. Et Annette, on te voit, tu fais la remarque d'ailleurs.
Mais ça, c'est le travail. C'est le travail de Stéphane. Moi, je suis ébahie en le revoyant. Je l'ai revu aussi aujourd'hui. Là, je ne l'avais pas vu depuis plusieurs années, je pense, ce film. Mais j'ai été stupéfaite de ce rendu, parce que quand même, on parle de choses pas marrantes, quoi. Et on se marre quand même dans ce film. Par moments, on a le sourire. C'est formidable ce que tu as fait, Stéphane. C'est vraiment...
Et est-ce que du coup, quand vous avez joué après que le film ait été fait, donc vous avez vu le film, vous avez rejoué, est-ce que ça a changé un petit peu après avoir vu le film? Est-ce que du coup, vous avez changé des choses dans votre façon de présenter, jouer, c'est pas le bon terme, mais de présenter en tous les cas le spectacle?
Alors moi, des choses, j'ai changé constamment, je crois. À chaque représentation, j'avais changé quelque chose, parce que j'étais revenu dessus. J'ai dit non, là, ça va pas et tout. Bon.
Didier s'est arraché des cheveux avec Louis.
Mais c'est pas forcément le fait d'avoir vu le documentaire qui t'a fait changer quelque chose.
Non, pas ça. Non, c'est une...
Le documentaire, il retransmet...
C'est une manie d'affiner, d'essayer... Sûr. Peut-être que je fous tout en l'air, hein, sans ça, mais non, mais voilà, j'ai cette envie de, j'allais dire perfection, on ne l'atteindra jamais, voilà, mais simplement d'avoir un objectif de faire le job au mieux, quoi.
Puis la perfection, elle ne peut pas exister dans ce genre
Mais nulle part.
De théâtre documentaire. Mais tu disais, Stéphane, tout à l'heure, que le film, on l'a vu combien de temps après qu'on ait commencé ?
Un an après, voilà.
Donc on en a tourné quelques-unes des représentations avant de voir le film.
Ouais. Et du coup, vous aviez oublié d'avoir vécu ces moments-là.
Je pense,
l'intensité du début, vous l'avez... Je me souviens très bien que vous l'avez redécouvert, parce qu'entre-temps,
j'ai redécouvert
une petite routine qui s'était presque installée, enfin, et quelque chose d'un peu plus... les enjeux étaient un peu moins forts, et vous avez retrouvé les
en regardant, je me disais, merde, j'ai dit cette connerie, moi.
Alors, je vous propose d'écouter un extrait, justement, un extrait de ce film que Morgan, qu'on remercie à la technique, va nous lancer tout de suite.
On m'avait placé à l'isolement, dans une cellule du rez-de-chaussée du bâtiment G, la prison Saint-Paul de Lyon, un endroit qu'on appelait le sous-marin. Je suis resté là 6 ans et demi, pratiquement. Une cellule, 8 mètres carrés, un lit métallique, une table qui se rabattait contre le mur, un tabouret, un plafond très haut et une fenêtre qui était à peu près à 2,30 m, 2,40 m, avec un rebord incliné pour qu'on ne puisse pas grimper, une exposition nord. Et par cette fenêtre, jamais le soleil n'entrait. Et puis, on m'a transféré dans une maison d'arrêt du Nord, à Douai, pour y être rejugé. Je suis arrivé dans cet établissement qui était plus récent. La cellule était plus claire. Il y avait une grande fenêtre qui descendait jusqu'au sol, avec des barreaux en béton armé, très peu espacés les uns des autres, 5-6 cm. Et derrière, un grillage. Il faisait un peu le regard en quinconce. Et bien sûr, première journée, j'ai passé tout mon temps derrière cette fenêtre. Regardez, je voyais les murs d'enceinte. Au-delà, il y avait des champs à perte de vue. Il y avait des chemins sur lesquels circulaient des gens. J'apercevais des silhouettes et j'imaginais des vies. Ces gens allaient peut-être au travail, en revenaient, faisaient autre chose. Et puis, à un moment donné, c'était vers la fin d'après-midi, j'ai aperçu une lueur au-dessus de moi, dans les tons mauves. Et puis soudain, ça a surgi, une énorme boule de feu. Et j'ai compris que j'étais sur la trajectoire du soleil couchant. Et j'ai regardé cette boule longtemps, jusqu'à ce qu'elle disparaisse à l'horizon. J'en ai gardé les yeux mouillés. Et c'était extraordinaire. Et cette scène, elle s'est reproduite pendant une quinzaine de jours à peu près, jusqu'au moment où j'ai été rejugé, condamné et réexpédié au sous-marin du bâtiment G de la prison Saint-Paul de Lyon, où je suis resté encore 2 ans et demi et où je ne voyais plus le soleil. Louis Perregaux, 67 ans, 18 ans de réclusion.
Le coucher de soleil raconté par Louis Perregaux sur Ici l'ombre. C'est pas beau ça ? Et alors, j'ai choisi cet extrait parce qu'il y en a tout plein en fait, des extraits de... C'est les extraits du spectacle de Didier Ruiz, mais qu'on retrouve pour certains d'entre eux dans le documentaire de Stéphane Mercurio. Et si j'ai choisi cet extrait-là, c'est parce que j'étais dans l'esprit de concertina, de l'évasion, et que pour moi, ce récit de coucher de soleil me faisait penser justement à des moments d'évasion qu'on peut avoir comme ça, qui ne sont que des ersatz d'évasion, mais voilà, c'est comme ça que j'y ai pensé. Annette, je crois que tu veux réagir là-dessus.
Une petite parenthèse, parce que c'est bien de partir effectivement peut-être sur l'évasion, mais une petite parenthèse à propos, déjà c'est un extrait, c'était une des premières fois, hein, je crois, où Louis devait raconter pour la construction de la pièce, et donc...
Non, ça c'est la première à Paris en fait.
C'était la première première à Paris, ça ?
Ouais.
Alors voilà, c'est intéressant, la parenthèse que je voulais faire, c'est que Louis dit qu'il a vu apparaître le soleil avec une lumière mauve. Et je me suis beaucoup moquée de lui au fil des années, parce que je vous raconte pas toutes les couleurs qu'il a vues au fil des années autour de cette boule de feu qui est apparue, c'est génial.
Mais on vous donne. Qui n'existe pas.
On vous donne des choses à fumer en prison. Comment ça se passe exactement? Alors, je voudrais quand même revenir avec toi, Louis. Tu as déjà dit beaucoup de choses sur la façon dont vous avez travaillé, etc. Je voudrais surtout savoir maintenant un petit peu qu'est-ce que tu retires de cette expérience avec Didier Ruiz et de tout ce travail théâtral. Alors, à la fois le travail théâtral, mais à la fois ce que tu as accepté de livrer ou pas, parce que peut-être qu'il y a des choses que tu n'as pas voulu livrer, ou alors, au contraire,
Les
sans
affaires
frein.
Qui n'ont pas été élucidées, je les ai pas
Tu n'as pas dit où était la cagnotte?
La cagnotte. Oui. Ça a été très riche sur plein de plans, en fait. Moi, je suis d'un caractère assez timide, donc aller me produire sur une scène de théâtre, déjà, bon, il faut se motiver, hein, c'est pas simple. Et d'arriver à le faire, j'étais content de moi. Il y a eu cet accompagnement, en même temps où il nous a appris à marcher, à se déplacer, comme dit Dédé, là, oser bouger les bras, ou Eric qui dit à un moment, est-ce que je peux sourire ? Bon, c'est une chose naturelle qu'effectivement on attendait, mais c'était pas aussi évident que ça que pour nous, quoi. Alors il y a eu cet aspect-là, il y a eu l'aspect du collectif où il y avait des hauts et des bas. Certains pensaient à des moments qu'ils avaient très mal retenu leur texte, qu'ils avaient. Et c'était toujours dans l'esprit de l'équipe en disant merde, j'ai saboté le travail des copains, quoi. Donc il y avait quelque part une petite culpabilité qu'il fallait surmonter. Voilà, et puis de voir tous ces gens qui se déplacent pour nous écouter, c'est vrai que c'est émouvant. C'est là qu'il faut faire attention de ne pas prendre la grosse tête, quoi, et de se croire quelqu'un d'autre. Mais le thème, le bouche à oreille, ont fait que les gens se déplaçaient pour essayer d'en savoir un peu plus sur un des mondes les plus obscurs de nos démocraties, entre guillemets.
Entre guillemets démocratie ou entre guillemets le monde obscur,
hein? Démocratie.
Soyons bien d'accord. Et le fait de livrer comme ça des morceaux de vos vies à tous en prison ou hors de la prison, il n'y a pas eu de frein, il n'y a pas eu de...
Si, c'est très difficile, c'est des choses qu'on a du mal à rendre publiques, ou alors il faut être très extraverti, ce qui n'est pas mon cas. À un moment, il y avait une vignette qui intéressait, il voulait qu'on parle du suicide. Donc, moi, ce que j'avais envie de faire, c'était de parler de la mort de mon père. Enfin, du suicide, pardon, de la mort, sous forme de suicide ou autrement. La mort de mon père, la manière dont je l'ai appris en prison, la manière dont un juge a pris l'initiative de m'interdire d'aller embrasser mon père alors qu'il était encore vivant. Enfin, des choses dont je garde au fond un nœud. Et donc il y avait cette situation. Pour moi, c'était aussi une manière de parler de mon père, de rendre hommage à mon père, de dire qui était cet homme un petit peu très rapidement, hein, dans cette histoire-là. Mais pour moi, c'est important. Et pendant tout un temps, je ne pouvais pas. J'avais l'émotion qui me coinçait la gorge, je ne pouvais pas. Donc j'avais une autre histoire et on le voit dans le film de Stéphane. À un moment donné, Didier me dit... Est-ce que tu peux parler la mort l'un ou l'autre? Parce qu'il y avait un recours de parler de quelqu'un d'autre, où là, c'était, il y avait plus de distance, c'était plus facile pour moi, quoi. Voilà. Mais il m'a fallu un certain temps, mais je l'ai surmonté, et c'est l'histoire de mon père que je racontais après, quoi. Mais toujours pas facile.
Bon, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. Il y a le témoignage d'Alain qui parle justement de la mort et de cet empêchement. Et il y a un moment qui, enfin, je trouve vraiment très très fort en tant que spectatrice. C'est pas facile pour lui. Voilà, il est en train de parler, de faire cette vignette, de donner ce témoignage et ça se bloque. Et vous lui dites, je ne sais plus qui, ou vous lui dites à plusieurs, on respire ensemble. C'est-à-dire qu'on sent là la force, cette force du collectif vraiment, où on vous sent tous extrêmement concernés. On imagine que chacun a vécu quelque chose de similaire pour une raison ou pour une autre, et là il y a un corps complet qui est là et qui porte l'autre.
Ça a été important, oui.
Et les relations avec le public, est-ce que parce que vous n'êtes pas comédien? Vous n'êtes pas des comédiens professionnels. Quelle a été la relation avec le public? Si je me souviens bien, quand je l'ai vu aux Subsistances, le public était relativement éclairé par moments. Enfin, donc il n'y a pas forcément cette distance. Je ne suis pas très sûre de ce que je dis là d'ailleurs. Mais voilà, comment vous avez géré, alors toi Louis ou Annette, alors, aussi, l'un après l'autre, un peu ensemble. Comment vous avez géré cette relation?
On dit les mêmes choses.
Ah non. On va voir.
J'ai une petite anecdote. On a commencé l'émission avec l'histoire de l'évasion d'Éric. Et quand il raconte cette histoire, ça vient au début de la pièce. Il raconte cette histoire, comment il se déchire dans les barbelés, on sent l'angoisse. Il raconte ça très bien. Et à la fin, il dit que c'était, il était dehors pour Noël, je crois,
pour le réveillon.
Et il finit en disant, c'était le meilleur réveillon de ma vie. Et là, les gens, peut-être se soulagent aussi un petit peu de l'émotion avant. La salle rit. Et à un moment donné, on a joué à Agen pour l'ENAP, l'École nationale de l'administration pénitentiaire. Donc ils sont arrivés en service commandé pour assister à la pièce. Et on n'avait pas fait des paris, mais on se demandait ce qui allait se produire quand il allait parler de l'évasion et surtout de son final. Et ils ont ri comme les autres.
Parce que ce sont des hommes et des femmes comme les autres. Oui, pas toutes, entre guillemets.
Ce qu'il faut dire, c'est que extrêmement souvent, la salle finit debout. À les applaudir. Hein. Ouais, c'est vraiment une pièce qui touche beaucoup les gens.
Et le documentaire aussi.
Ils finissent pas debout dans les salles de cinéma. Mais...
pas autant, peut-être. Mais enfin, ils touchent aussi.
S'ils viennent. Il y a des applaudissements.
S'ils viennent, oui.
Mais ça pourrait. Parce que moi, ça fait combien d'années maintenant qu'il est sorti ce film?
Et ben, je crois 2018.
4 ans.
Et bien, 4 ans après, me concernant, j'ai encore des retours de gens bouleversés par le film.
Oui, je pense que ça
pourrait.
Ça touche. Ouais.
Et tu avais une réaction tout à l'heure, Annette, à propos de justement la relation avec le public, où vous aviez peut-être pas le même angle de vue.
Ah si, je pense que là-dessus, oui, je dis, on n'a pas toujours... Je voulais juste dire qu'on ne dit pas toujours la même chose, mais là-dessus...
Justement, oui.
Pour une fois, on est d'accord.
Formidable. Et tout ça sur Ici l'ombre. Oh, merci, c'est trop.
J'ai eu des retours de public extraordinaires, que ce soit suite au film. Stéphane, qui a eu la bonne idée de me filmer en train de chanter pour l'anniversaire de notre Dédé, là... je sais pas, j'avais sorti le disque avant ou après, puisque je chante avec Toff, qui est mon compagnon de musique. On avait sorti un disque avant ou après, je sais plus. Où dedans il y a cette chanson et encore il y a peu quelqu'une qui écrit parce que elle a trouvé la chanson bien et où est-ce qu'elle peut se la procurer. Il y a eu des belles rencontres comme ça et après la pièce j'ai eu des rencontres de femmes mais bouleversantes. Elles venaient, mais elles me tombaient dans les bras, quasi en larmes, en me remerciant de témoigner, quoi. Toutes des femmes qui, justement, n'ont pas la douceur, j'ai envie de dire, de pouvoir parler, et qui vivent cette situation d'accompagnement de personnes d'une personne en prison. Il y a eu des moments, mais hors du temps, quoi, de rencontres, de croisements.
Il y a eu effectivement, il y a tous ces moments-là, il y a toute cette émotion qui existe et qu'on a, sur laquelle on a mis un petit peu les doigts, on va dire. Et, mais il y a aussi, dans le travail qui a été fait, alors... par Didier Ruiz, enfin avec vous bien sûr, et puis aussi dans le documentaire, il y a quand même un aspect aussi politique à la question. C'est pas seulement pour faire pleurer dans les chaumières que vous avez fait ça.
Ah non, l'histoire c'est pas de faire pleurer, c'est de réfléchir,
de oui, connaître. Je le dis un peu brut de décoffrage, mais pour avoir l'aspect aussi politique.
Oui. Alors ça a été question. Une longue discussion, ça aussi, avec Didier. C'était qu'au final, on fasse quand même un peu une analyse de la situation. Et bon, c'est un regard politique. D'ailleurs, il le dit, on l'entend dans le film de Stéphane. Il dit « j'ai jamais rien fait d'aussi politique et j'en suis heureux ». Donc ça c'est mais il a fallu batailler.
Oui, c'est pas sorti tout seul. Oui, mais c'est justement ce que je voulais dire, c'est le fruit de ce travail abouti à ce positionnement politique.
En tout cas, il a pas dit non, quoi.
Voilà, il a pas botté en touche.
Non,
Didier.
Il a pas. Non, non, on s'est affronté un petit peu sur des détails, des choses. On a fait des compromis.
Il a eu un sens d'adaptation extraordinaire, Didier.
Il a été respectueux, incroyable.
Parce qu'il peut donner l'impression, j'en discutais, on le sait là pour toutes les auditrices et auditeurs qui nous écoutent, qu'on sort du visionnage du film.
De la projection du film.
Oui,
qui a été fait cet après-midi, oui.
Et là, il y a deux personnes qui m'ont fait remarquer que Didier, quand même, il nous parle un peu de façon... Un peu directive.
C'est un metteur en scène, hein, en même temps.
Voilà, donc on a reparlé de ça et c'est vrai que ce qu'on peut peut-être ressentir un petit peu n'est pas vraiment... c'est représentatif de la passion de Didier et de son amour du travail fait à fond et bien fait, j'ai envie de dire, hein, c'est ça. Mais il n'est pas du tout despote ou mais pas du tout. Et toujours, on avait le droit de dire, ben non, ça je ferais pas. Enfin, on n'était pas du tout sous une emprise quelconque. Et il a eu un sens d'adaptation extraordinaire au fil des représentations. Quand Louis, qui a la dernière vignette de la pièce où tu parles c'est quoi le titre de ta vignette à la fin ?
Victor Hugo, non ?
Qu'est-ce qu'on
alors le titre
à quoi ça sert la prison
sert.
Parce qu'on avait des titres pour chaque vignette, donc rien n'est écrit dans tout ce qu'on a dit, mais voilà, par exemple la dernière vignette de Louis, c'est à quoi ça sert la prison, et là-dessus il disait après, c'est pas écrit, donc c'était le thème du truc, donc à la limite il dit ce qu'il veut. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au fil des représentations, ça s'est étouffé chez monsieur le Pérégo autour de sa vignette, à quoi ça sert à la prison.
Il aurait fait
et
le
Didier,
spectacle.
Et Didier, au bout d'un moment, il lui dit, dis donc, Louis, faut peut-être calmer un peu le jeu, parce que ça devenait bien virulent et tout ça. Et Louis a défendu bec et ongle, évidemment,
son point de vue, oui.
Et Didier a joué, oui, je sais pas comment il faut
il
dire,
a joué le jeu,
mais
oui.
A accompagné Louis à fond. Ça a été un beau travail de confiance là aussi, un bel échange, quoi.
Mais je pense que chaque vignette, hein, chaque moment pose la question de l'utilité carcérale.
Oui,
je pense que
vrai.
chaque histoire pose la question de à quoi sert la prison. Voilà, c'est une question qui est tout le temps présente.
C'est vrai.
Voilà. On en remet juste une petite couche à la fin.
Bah, la petite couche historique.
Pour si les gens n'avaient pas compris.
Tu mets la petite couche historique de quand voilà, t'as construit un travail ouais, pour politique.
Oui, on rappelle un petit peu où est née la prison. La prison en tant que peine. Mmh. Hein, parce que la prison existe depuis très longtemps, mais en tant que peine. C'est pas si ça date de la Révolution. Bon, voilà, et c'est bien de le rappeler.
Bah, je rebondis sur ce que tu dis par rapport à la pédagogie, parce que vous avez joué, et peut-être que le documentaire a été projeté aussi, dans des collèges, enfin pour des collégiens et des lycéens et lycéennes. Quels ont été les retours, justement, de ce public qui est particulier ? peut-être Stéphane,
oui,
déjà pour le...
Oui, il y a eu quelques projections avec, avec des profs de français qui organisaient voilà, parfois des débats, parfois dans le cadre de, même de rencontres qu'ils organisaient, je crois sur Nantes, il y avait eu plein de rencontres avec des... Voilà, ils sont... ils s'embarquent complètement dans cette histoire, quoi.
Est-ce voilà, que après... tu as senti que c'était nécessaire de porter cette parole-là?
Je pense, oui. De toute façon, c'est pas nécessaire qu'auprès des lycéens et des collégiens.
On est d'accord.
La culture sur la prison est proche de zéro, donc les représentations de ce que c'est qu'une prison, de ce qui s'y passe, ou voilà, j'ai encore entendu il y a 3 jours quelqu'un qui me disait oui, mais quand même, la télévision, ils ont Canal Plus, machin.
Quelle chance.
Enfin non, mais encore, au secours. En
2022,
ça,
on
voilà. Donc voilà, malheureusement, c'est assez facile de faire œuvre de pédagogie puisque
on part de rien, quoi.
On part de rien. Donc
oui.
Voilà et donc oui, les jeunes, mais pas que quoi, en fait.
Oui, mais c'est intéressant toujours d'avoir ce retour qui est souvent brut, un peu sans filtre, peut-être plus sans filtre que des adultes. Qu'est-ce que vous en avez
Bon, nous, on a eu un joli retour. Une fois, c'était des collégiens, hein, je pense. Après, qui ont eu un travail, déjà avant, sûrement. Enfin, ils étaient en cours de travail, voilà, avec un professeur. Et ils nous ont à chacun envoyé une lettre personnalisée où ils nous posaient une question. C'était vraiment trop joli. Moi, j'ai vraiment été... j'ai eu très à cœur de leur répondre, hein, vraiment. Et je crois que chacun l'a fait.
Et t'as répondu quoi?
Ah ben ça, je vais pas dire ce que j'ai répondu parce que ça ferait l'objet d'une autre émission. Mais oui, ils m'ont demandé si j'étais toujours en colère. C'était formidable comme question de poser ça. Et puis sinon, notre anecdote qui nous a toujours beaucoup réjouis, c'est qu'à chaque représentation où c'était lycéen ou ado, des jeunes quoi, dans la salle, il y avait un bruit, un brouhaha quand on était dans les coulisses, juste avant quoi, le quart d'heure avant que ça commence. Et on se dit, oh là là, mais comment on va faire ? Et la magie, chaque fois, dès que la musique commençait, que les lumières s'éteignaient, et Louis qui est sur scène au moment où un peu de lumière arrive, t'avais un silence, mais plus rien, et un silence qui perdurait durant toute la représentation. Ça, c'est ouf.
On arrive à la fin de cette émission, même s'il nous reste quelques petites minutes, justement pour vous dire que Concertina, c'est pas fini, même si l'émission tire à sa fin.
Oui.
Il y a encore des
bien
choses.
Bien joué.
N'est-ce pas?
Puisqu'à 20h30, eh ben, à suivre sur Ici l'Ombre, l'écho des conférences, et demain matin, reprise à 9h avec le MAC de la matinale.
Et ça, le MAC de la matinale, c'est à 9h, jour ou pas jour. Hein. Et alors... en espérant justement qu'on sera bien réveillé, puisque c'est tout de suite la fiesta, ça a même déjà commencé, la soirée festive au Parc de la Baume, avec musique et bon petit plat.
Bon, hein. On y va, on peut finir un peu plus
et
tôt.
Et ben voilà, Annette est pressée de partir. Et puis, alors demain, il y aura d'autres ateliers qui vous seront proposés dès 9h30. Si vous avez suivi, c'est Y a quoi au Concertina, hein, petite émission que nous vous proposons chaque jour pour vous expliquer le programme, n'est-ce pas Tina qui nous regarde. Et bien voilà, vous savez tout sur les ateliers si vous avez écouté ça. Et puis, ben voilà, on vous souhaite de suivre.
Vous pouvez retrouver ben, du coup toutes les émissions, cette émission ainsi que toutes les autres, sur le site des Rencontres Concertina à l'onglet Ici l'Ombre. Et puis, on vous remercie beaucoup, vous trois, d'être venus jusque-là.
Et on remercie Morgan à la technique. Et on remercie Sylvie.
Et on remercie Fred. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir écoutés.
Au revoir à tous et à toutes.
Au revoir.
À l'ombre de Concertina, l'émission en direct et en public d'Ici l'Ombre, depuis la halle à Dieulefit.